Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Maurizio Serra et Georges-Henri Soutou, merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler du fascisme italien du point de vue historique. Maurizio Serra, vous êtes actuellement ambassadeur délégué permanent de l'Italie auprès de l'UNESCO et vous venez d'écrire en français une biographie très remarquée, Malaparte, vies et légendes au pluriel, publiée chez Grasset, pour laquelle vous avez reçu le prix Goncourt de la biographie. L'écrivain Malaparte était encore mal cerné en raison de ses engagements multiples et contradictoires. Homme de droite, journaliste, il s'est prononcé pour l'adhésion au fascisme puis s'est rapproché du communisme à partir de 1943. Ses prises de position font de lui un personnage controversé, à l'image de ses revirements politiques, tour à tour fasciste, pro-allié pendant la Deuxième Guerre mondiale et antifasciste. Parmi vos livres, Maurizio Serra, citons aussi Marinetti et la Révolution futuriste, et puis Les frères séparés, Aragon, Drieux-La Rochelle, Malraux. Georges-Henri Soutou, vous êtes historien des relations internationales et en particulier des rapports franco-allemands. Vous êtes membre de l'Institut au sein de l'Académie des sciences morales et politiques. Parmi tous vos livres, aujourd'hui, nous allons évoquer votre somme sur l'histoire de l'Europe de 1815 à nos jours, publiée au PUF en 2007, dans laquelle vous dépassez le cadre des histoires nationales pour poser le problème de l'identité de l'Europe. Dans cet essai d'histoire comparative, vous prenez en compte les recherches des 20 dernières années. Vous revenez sur l'étude des totalitarismes comme un phénomène marquant du XXe siècle avec ses horreurs, les camps nazis, l'extermination des Juifs d'Europe, le goulag soviétique. Et vous nous invitez à réfléchir sur le fait que les régimes totalitaires sont différents aussi des dictatures et des régimes autoritaires. Et vous insistez sur la particularité du fascisme italien. Aujourd'hui, dans notre émission, j'invite donc nos auditeurs à faire le point, grâce à vous deux, sur cette question du fascisme italien, ses composantes et ses ambiguïtés. Georges-Henri Soutou, comment les historiens définissent-ils aujourd'hui le fascisme italien? Quelles sont ses composantes et ses racines?
C'est un régime qui, je parle d'abord du fascisme italien, ou du fascisme italien comme vous voudrez. C'est un régime qui remplace un gouvernement libéral qui dirigeait l'Italie depuis Cavour et qui était de plus en plus contesté par des milieux nationalistes. Et donc, il y a au point de départ du fascisme italien un nationalisme très fort, ravivé par la Première Guerre mondiale et les épreuves de l'Italie pendant la guerre et ses déceptions lors de la conclusion de la paix. C'est le premier facteur. Il y a un deuxième facteur qui est le rejet du cosmopolitisme démocratique, le rejet de la démocratie libérale, considéré comme un affaiblissement culturel, un affaiblissement des valeurs et un affaiblissement même du peuple par l'hédonisme et l'esprit de jouissance. C'est d'autre part, et troisième point, il y a un très important aspect de lutte sociale, étant donné qu'entre 1918 et l'arrivée au pouvoir de Mussolini en 1922, l'Italie a connu de très forts affrontements politiques et syndicaux, et les fascistes se sont opposés aussi en opposant aux marxistes. C'est un élément absolument essentiel. Donc, il y a aussi un aspect anti-marxiste. Nationalisme, anti-libéralisme, anti-marxiste, avec en plus un chef charismatique qui est Mussolini lui-même. Voilà, je pense, les quatre composantes essentielles du régime au départ.
Maurizio Serra?
Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. J'offre simplement comme contribution de réfléchir au fait que la guerre mondiale est à ce point important que sans la guerre mondiale, ce premier modèle, ce premier tronc, ce premier phénomène fasciste qui est du point de vue de l'aînesse des fascismes historiques, des fascismes du XXe siècle, le fascisme italien, n'aurait pas existé ou de toute façon n'aurait pas existé même idéologiquement de cette façon. N'oublions pas que Mussolini lui-même commence la guerre, ou en tout cas au début de la guerre, en 14-15, la guerre mondiale arrivant un an à peu près avant la guerre pour les Italiens, en socialiste, et ce n'est que par le passage de la guerre qu'il devient autre chose, ce qu'on appellera fascisme. Et pour prouver la complexité de ses racines, on voit que déjà la toute première forme du fascisme, qui est celle qu'on peut reconduire à la première charte du mouvement de Saint-Sépulcrisme, on appelle, parce que c'est la place Saint-Sépulcre, du Saint-Sépulcre, à Milan, que officiellement le faisceau mouvement naisse, est beaucoup plus radicale que celle que nous connaîtrons à partir du fascisme régime, donc un fascisme mouvement qui naît de la guerre, et un fascisme régime qui s'adapte au pouvoir après la marche sur Rome et au fur et à mesure que la conquête du pouvoir le met dans la nécessité de trouver un compromis avec les autres pouvoirs italiens avec lesquels il a dû quand même coexister pendant tous les 20 ans de son histoire, ce qui est très différent d'autres formes plus radicales de fascisme, notamment le fascisme ou national-socialisme allemand venant 10 ans plus tard. Donc, c'est une question, me semble-t-il, importante de savoir si ce fascisme italien est plus autoritaire ou plus totalitaire.
Henri-Georges Soutou, vous avez tout à l'heure juste un petit point de détail de prononciation. Vous avez prononcé fasciste. Alors, comment prononce-t-on exactement ?
Écoutez, il y a deux façons de dire. Il m'arrive d'ailleurs de passer de l'une à l'autre en fonction des interlocuteurs. On peut dire fasciste, ce qui est la dérivée directe du fascisme italien, qui est probablement la prononciation la plus fréquente aujourd'hui. Ou on peut dire fasciste, ce qui dérive davantage du mot français faisceau, qui a un sens évidemment historique, mais aussi politique, puisqu'il y a eu en France, dans les mêmes années, un mouvement des faisceaux, c'est pas un parti, un groupe, des faisceaux. Donc, je vais pas vous faire un cours sur la France, mais enfin, le mot faisceau conduit à fascisme. Alors, il y a une boutade dans les milieux intellectuels des années 60 qui était fuligineuse. Vous savez, quand les bombes sautaient un peu partout dans Paris, où on disait, si tu dis fasciste, c'est que tu es à gauche, si tu dis fasciste, c'est que tu es à droite. Bon, enfin, c'est un peu une boutade. Mais c'est intéressant parce que le mot fasciste évoque, à mon avis, une réalité plus internationale que le mot fasciste, qui renvoie plus strictement à la réalité italienne, du moins dans mon esprit.
Maurizio Serra.
Mais vous savez, c'est très difficile, et c'est même un peu dangereux. J'ai beaucoup de mal à me situer dans des contextes de notions abstraites, loin des origines historiques des termes. Alors, cela peut paraître un peu dogmatique, cela peut paraître un peu bigot, mais franchement, vous devez quand même placer le terme dans un contexte qui a été donné par le XXe siècle et par le XXe siècle européen. Et bien sûr, il y a eu par exemple un fascisme ou fascisme japonais important qui a une signification à la fois historique et idéologique. Mais c'est essentiellement, je le situerai, comme un phénomène qui se dégage en Europe après la Première Guerre mondiale jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, qui a peut-être une existence posthume dans certains cas de conflits autour de la fin du colonialisme, on peut peut-être trouver des équivalences historiques, mais se perd. Alors, dans ce point de vue de son idéologie, il est incontestable que tous les aspects anti que venait d'énumérer Jean-Jean Rissoutou sont les bons, y compris l'antimarxisme, parce que nous avons parlé de l'influence de la Grande Guerre, n'oublions pas l'influence par opposition quand même de la Révolution bolchevique, qui a joué certainement un rôle et un poids, aussi bien du point de vue de l'idéologie qui devient antimarxiste, que de l'idée de la conquête du pouvoir.
Est-ce que je pourrais compléter ce que Maurizio Serra vient de dire très justement par une présentation un peu anthropologique, oui. Un résumé de biographie en distinguant très nettement, il faut distinguer absolument la masse des Italiens qui, après l'avènement du régime, ont dû tout simplement, pour pouvoir occuper des positions, mener une carrière normale, prendre la carte du parti. Ça, c'est une caractéristique des régimes totalitaires. Ils ne doivent pas entrer dans la question que vous posez maintenant. Si vous en êtes d'accord. En revanche, le groupe fondateur, ce sont des gens qui ont été anciens combattants pendant la Première Guerre mondiale, qui ont été des héros dans une guerre extrêmement difficile pour l'Italie, mais qu'elle a gagnée pour finir. Bon. Ensuite, qui se sont manifestés dans l'après-guerre, dans les crises causées par l'établissement des frontières, en particulier à Fiume. L'occupation de Fiume par D'Annunzio a été un point focal de beaucoup de mouvements en Europe, d'ailleurs pas seulement en Italie, mais en Italie, au premier rang desquels les fascistes. Ensuite, il y a eu les luttes internes dont j'ai parlé, la marche sur Rome, et ensuite l'occupation d'un certain nombre de positions. Si on prend cette typologie, en dehors de Mussolini lui-même, qui est un cas tout à fait spécial, Italo Balbo me paraît probablement le personnage le mieux connu de l'ensemble des Européens aujourd'hui, qui représente bien cette tendance, avec en plus quelque chose que vous avez évoqué à propos du futurisme, c'est d'une certaine façon la modernité du fascisme, l'aéronautique, les communications radioélectriques, l'urbanisme, les grands projets, les premières autoroutes en Europe ne sont pas celles de l'Allemagne, sont celles qui ont été construites entre Milan, Turin, les lacs italiens par Mussolini, n'est-ce pas ? Cet aspect modernisme technique et scientifique fait aussi partie de la composante psychologique du groupe fasciste fondamental. Les restes se sont ensuite déralliés.
Oui, et j'ajouterai une chose qui, de ce point de vue-là, là, nous sommes en train de vraiment d'esquisser les composantes anthropologiques ou idéologiques ou sociologiques du fascisme italien. Et un élément très fort est l'opposition au marxisme, mais en même temps l'idée que le fascisme apporte à la société italienne une nouvelle conception des classes confondues. Ce qui, d'une certaine mesure, deviendra également le corporatisme. Apparemment, le corporatisme, c'est isoler les classes, mais en fait, c'est les isoler pour qu'elles participent toutes au même corps social. Donc, il y a une composante anticonservatrice et même antireligieuse qui est très forte dans ce fascisme de Sansepolcro et de Fiume dont je parlais tout à l'heure, mais avec lesquels Mussolini doit trouver des compromis, doit louvoyer en cours de conquête du pouvoir, parce que quand même, il ne peut pas éliminer ces deux, bien qu'étant lui foncièrement socialiste, ou si vous voulez, fasciste-socialiste jusqu'au bout, il y a quand même ces grands piliers, l'armée, l'église, la monarchie, ce qu'on appelle, dans un terme politique italien, la diarchia, donc la diarchie qui se fait avec la machine. Donc ce ne sera jamais un fascisme pur.
Que serait un fascisme pur ?
Mais alors, voilà, quel est le fascisme pur ? Ça m'amuse, par exemple, je voulais citer le fait qu'en Union soviétique, pendant la Grande Guerre patriotique, notamment, pour désigner les envahisseurs, qui devaient être allemands, bien sûr, mais nazis, c'était le terme fasciste. Fasciste est derjave, fasciste. Donc, on n'utilise pas le terme nazi, on utilise le terme fasciste. C'est très curieux, peut-on parler de fascisme vrai ou faux, dans quelle mesure, par exemple, dans les Balkans, dans l'entre-deux-guerres ? Ce sont des cas assez complexes. Je trouve que la racine de base est certainement à la fois le refus du marxisme et le refus de la société libérale. Après quoi, les variantes sont très fortes. Une notion, par exemple, fondamentale, chez certains fascismes, mais pas seulement le fascisme nazi allemand, mais qui n'a pas du tout le même rôle dans le cas italien, est celle de la race.
Oui, car on pourrait définir le national-socialisme comme fondé sur la notion de race et le fascisme comme fondé sur la notion d'État. L'État total, expression qui est italienne, qui n'est ni soviétique ni allemande, système totalitaire pris comme un compliment, affirmé comme tel dans la grande encyclopédie italienne, article rédigé par Mussolini lui-même, enfin, ou ses assistants, qu'ils ont signé par lui. Je vois que mon collègue et ami auteur Serra est très vigilant sur ce point. L'article totalitarisme de la grande encyclopédie italienne, et qui donne la théorie fasciste du totalitarisme, a été signé par Mussolini, ce qui était un signal très net pour tout le monde. Et de trois régimes que nous avons évoqués, c'est le seul qui se présente lui-même comme totalitaire. Je ne dis pas que les deux autres ne l'étaient pas, mais le mot est revendiqué fièrement parce que c'est l'homme total, dans une société totale, sans classe, comme le disait très justement Maurizio Serra, unis pour développer au maximum toutes ses capacités. C'est une vision d'un homme nouveau total. C'est terrifiant d'une certaine façon, c'est extrêmement sérieux. Nous sommes tous les deux d'accord pour dire que le projet fasciste, contrairement à une vision anecdotique ou caricaturale qu'on a, est extrêmement sérieux. Je rebondis
parce que l'historiographie actuelle, justement, a avancé énormément sur ces questions. Et parce qu'on a, disons qu'il y a 30 ans, 40 ans, pour faire court et réducteur, on plaçait le fascisme en dessous, on va dire, dans l'échelle de l'autoritarisme, pour simplifier.
Est-ce que je pourrais évoquer rapidement une courbe historiographique ? Il y a eu une première période où le fascisme était considéré comme un un allié évidemment du national-socialisme allemand, mais comme vous l'avez dit, au second plan, réduction incomplète, etc. Puis il y a une deuxième période avec le travaux de Filitsch en particulier, qui a développé l'idée d'un fascisme qui constituait une étape proprement italienne, qui ne devait rien au national-socialisme, dans la voie difficile de la modernisation de l'Italie depuis le 19e siècle. Bon, je caricature un peu, mais enfin, c'était une étape. Et actuellement, l'historiographie, Félix était allé peut-être un peu loin dans son sens, mais actuellement, l'historiographie va de nouveau dans l'autre sens et développe une notion que moi, je n'aime pas beaucoup, celle de nazi-fascisme, en un seul mot, nazi-fascisme. Ce qui revient à remettre le fascisme italien tout à fait dans le même bain que le national-socialisme allemand, ce qui me paraît de nouveau excessif. Et voilà les trois étapes que je vois dans l'historiographie récente.
Maurizio Serra, vous vouliez intervenir ?
Non, je dis simplement que c'est tout à fait une partition qui existe, mais qui correspond à des états de recherche qui ne s'excluent pas les uns les autres. J'aimerais revenir sur cette notion de totalitarisme, parce que là, il faut faire attention à ne pas confondre la rhétorique et la réalité du mouvement. D'abord, Mussolini, qui est à la fois un idéologue, c'est une personnalité extrêmement complexe, Mussolini. Il y a chez lui des aspects d'autocaricature qui ennuient un peu à son image historique. Mais je pense que c'est intellectuellement le plus complexe des fascistes du XXe siècle et le plus lettré. Bien qu'un lettré très autodidacte, où tout se brasse et très souvent les passions du moment priment, les passions j'entends même littéraires, esthétiques, priment sur autre chose. Mais quand même, c'est un lettré. Et bien qu'il ait sa vision idéologique du fascisme tôt, qui se fait très tôt, qui se fait à la sortie de la guerre, et c'est vraiment le Sansepolcrisme chez lui. Ce serait Fiume si Fiume n'était pas son rival d'Annunzio. Alors, il ne peut pas épouser Fiume. Il faut qu'il détruise idéologiquement Fiume pour qu'on n'ait pas l'idée qu'on puisse faire le fascisme sans lui. Ce qui est la grande tentation, d'ailleurs, de d'Annunzio. Mais il n'a pas les troupes. Et alors, surtout les troupes de choc, parce que finalement, Fiume, ça s'effrite avec les bombes, bien que ce ne soit pas de l'opérette. Alors, son fascisme est un social-fascisme. Je ne dis pas un nazi-fascisme, mais je dis un social-fascisme. D'ailleurs, à Salò, bien qu'à Salò, il soit extrêmement diminué du point de vue politique et même du point de vue idéologique et humain, c'est quand même un retour. Mais, alors, si cette idée social-fasciste puissamment totalitaire, d'homme total et d'homme nouveau, d'ailleurs, un des pseudonymes de Mussolini en 13-14, c'est l'homme qui cherche. Il est déjà entre le socialisme et autre chose, mais il cherche un homme intégral, un homme total. En même temps, c'est un homme politique qui, j'y reviens constamment, mais c'est si l'on veut le bouler à son pied de dictateur manqué, c'est la raison pour laquelle la rhétorique totalitaire a une réalité qui est beaucoup plus de compromis dans les 20 ans du régime. Et c'est le fait qu'il n'a jamais le pouvoir absolu. Il y a une interprétation qui, à mon avis, doit être bien sûr nuancée, je la dis très brutalement, mais qui mérite qu'on y réfléchisse, selon laquelle il entre dans une guerre mondiale en 40, il attend quand même une non-belligérance, une neutralité de 8 mois avant de s'y plonger. Il entre dans une guerre mondiale où il sait parfaitement qu'il risque tout, y compris physiquement son existence, mais parce qu'il espère sortir de cette guerre vainqueur d'une façon qui puisse lui permettre de devenir le seul maître de la scène en Italie et donc de se débarrasser, sinon totalement, mais au moins de l'influence que gardent la monarchie et l'Église. Donc le projet est totalitaire, la réalité est du pur compromis, en dents de scie, ça va d'un côté à l'autre. Cet article que citait Georges-Henri Soutou est un article 31-32. Il met 10 ans avant de permettre à Volpe pour l'aspect historique, à Gentile pour l'aspect idéologique, de coucher sur le papier une théorie du fascisme. Et c'est la raison pour laquelle, dès les premiers moments, des observateurs étrangers disent « ce fascisme, c'est un peu tout et l'envers de tout, il a 2 ou 3 composantes fortes, mais finalement, il contient un peu tout ce qui sert à son chef ».
Marquons une courte pause et retrouvons nos invités dans quelques instants. Thank you. Retrouvons Georges-Henri Soutou et Maurizio Serra pour la suite de notre émission. Le fascisme italien qui exaltait l'Empire romain et avait des rêves de grandeur, se considérait-il comme un modèle politique applicable ailleurs, Maurizio Serra et Georges-Henri Soutou? Est-ce que la composante nationaliste du fascisme italien est-elle compatible avec son ambition? Vous avez, et l'un et l'autre, parlé du fascisme italien, mais aussi des fascismes, monsieur Serra. Alors, peut-être posons tout de suite la question du pluriel des fascismes.
Bon, ça, c'est une question extrêmement compliquée, si on a une vision large du fascisme. Mais j'exclus, par hypothèse, la vision donnée à partir des années 30 par l'international communiste d'un fascisme qui appelait l'antifascisme. Et ce fascisme-là, c'était une construction intellectuelle qui mettait très exactement dans le même bain, comme si c'était la même chose, le national-socialisme allemand, le fascisme italien et la droite conservatrice traditionnelle, qu'elle soit française ou anglaise, ou les républicains américains, etc. C'était une pure construction idéologique qui affirmait que le fascisme était l'expression ultime, le stade ultime du capitalisme, n'est-ce pas? Donc, c'était pure construction idéologique. Alors, ce fascisme-là, ou cette interprétation-là, bien entendu, je la récuse. Bon. Alors, la question de savoir s'il y a un fascisme ou pas est une question très débattue par les premiers intéressés, sur les fascistes italiens eux-mêmes. Le fascisme n'est pas un article d'exportation, a dit à certains moments le Duce du fascisme, Benito Mussolini. À d'autres moments, il a autour de lui toute une série de groupes, il y a toute une littérature qui a été publiée ces dernières années, mais on peut reprendre des opuscules, j'en ai amené ici un ou deux, des opuscules de la fin des années 20 ou début des années 30, où l'on affirme que le fascisme est un modèle pour l'Europe et pour le monde, car il y a l'Amérique latine. Alors, vous avez là une ambiguïté entre un fascisme qui est par essence nationaliste et qui veut reconstituer sur le plan international, grosso modo, la grandeur de Rome, l'Empire romain, dans certaines mesures du possible, et puis en même temps l'affirmation d'une vocation européenne pour les composantes que nous avons définies tout à l'heure, que je ne rappelle pas. Je pense qu'il y a une ambiguïté profonde qui n'a jamais été résolue, mais Maurizio Serra, qui a écrit des livres sur la politique extérieure italienne et tout ça, est mieux placé que moi probablement pour approfondir ce point. Il reste néanmoins, alors non plus du côté des fascistes italiens, mais du côté des autres pays. Si vous prenez l'Espagne de Franco, son modèle, ce n'est pas l'Italie fasciste. C'est tout à fait différent. Le cas espagnol est tout à fait différent. Il faudrait une émission entière pour expliquer pourquoi, mais vraiment, ça n'a rien à voir. C'est facile à démontrer. Si vous prenez le cas de Salazar au Portugal, il est beaucoup plus influencé, s'il est influencé, parce qu'il est parfaitement capable d'avoir ses idées, il est influencé par l'Action française. L'Action française, par exemple, qui n'est pas fasciste, mais qui s'intéresse à tout ça, l'Action française, chez elle, a expulsé les pro-fascistes. Elle les a expulsés, donc elle n'est pas fasciste, mais elle observe ça de très près. Elle considère que Salazar, c'est ce qu'il y a de plus près, l'Estado Nuevo, comme il disait, et ce qu'il y a de plus près de l'idéal maurassien. En revanche, c'est l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, en particulier l'Argentine. Mais il y a d'autres cas où vous avez, dès ces années-là, pendant la Deuxième Guerre mondiale et encore après la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit au Brésil, que ce soit en Argentine et dans d'autres pays dont on connaît moins le développement, vous avez des régimes qui ont des liens politiques avec l'Italie fasciste, tant que celle-ci existe, et qui reprennent beaucoup d'éléments. Si vous prenez le péronisme, vous avez beaucoup d'éléments du fascisme, si j'ose dire, le sérieux en moins peut-être, parce qu'il y a un côté un peu fou ou paillettes, bling bling, si vous voulez, du pyrrhonisme. Bon. Mais là, je pense que certaines filiations ou une convergence pourrait être établie. Vous avez d'autre part, dernière catégorie, toute une série de régimes autoritaires en Europe centrale qui se mettent en place à partir du début de la crise des années 30. En commençant par l'Autriche, évidemment très intéressante pour l'Italie, avec le régime des Heimwehren, du christianisme social conservateur de Dollfuss, qui n'est pas l'équivalent du fascisme italien, mais qui quand même prend largement au modèle sur le fascisme, en particulier pour le corporatisme. Vous avez d'autre part en Roumanie, en Bulgarie, toute une série de régimes autoritaires qui se mettent en place, qui sont des régimes autoritaires pour lutter contre la crise et lutter contre les marxistes, pour les choses brutalement, mais qui ont quand même besoin d'un substrat idéologique, et ils le trouvent où ? Dans le fascisme italien.
Comment différencier autoritarisme et fascisme ?
Honnêtement, ça n'a pas le même sens que pour les régimes marxistes, qui ont une idéologie extrêmement précise, qui s'excommunient, où on se discute pour savoir s'il faut parler de la construction du socialisme ou la construction accélérée du socialisme. Pour les régimes autoritaires ou fascistes, ça n'entre pas en ligne de compte. C'est un mouvement. Il faut être national. Il faut être national. On ne va pas demander aux militants s'ils acceptent tous les points du programme, on s'en moque. On veut qu'ils soient dans le mouvement, qu'ils soutiennent, qu'ils soient nationaux et qu'ils soutiennent le régime sans aller dans les détails. C'est une mentalité totalement différente de celle des milieux de gauche, pour parler brutalement.
Oui,
alors, je pense que nous touchons à une question qui, dans le cas spécifique du fascisme italien, et surtout de Mussolini, après une longue éclipse, parce qu'il y avait quand même des études importantes qui avaient été consacrées à cet aspect, mais elles ont été un peu oblitérées longuement par une image très passionnelle, disons, de réhabilitation du modernisme, ou bien plutôt de considérer que c'était un régime tout à fait apparenté, affilié au nazisme. Là, on revient vraiment à considérer qu'il y a deux grandes périodes dans le fascisme historique italien, et qui sont les années 20 et les années 30. Et je dirais que les années 20 vont jusqu'à 33-34, quand l'apparition d'Adolf Hitler en Allemagne pose vraiment le problème identitaire du fascisme italien et de Mussolini en particulier. Alors je vais être extrêmement bref et schématique et vous me pardonnerez, quitte à y revenir. Dans les années 20, donc entre 22-23 et 33, nous parlons 33-34, nous parlons d'une dizaine d'années, Mussolini réussit avec un équilibrisme qu'il faut lui reconnaître sur le plan historique, à jongler entre une position de grand mouvement dans la politique internationale qui pourtant lui permet de maintenir la France et l'Angleterre dans son rapport. La première chose que fait Mussolini en allant au pouvoir, c'est assurer Poincaré de l'appui italien dans le cas de l'occupation de la Rhénanie et puis du problème de la Ruhr. Donc je pense que c'est déjà une démonstration de mouvement. Et à côté de cela, continuer à financer et à essayer de jouer un rôle de point de repère pour tous les mouvements fascisants ou parafascistes qui, dans les Balkans, en Amérique latine, comme l'a très bien dit Jean-Jean Rissoutou, et ailleurs, grignotent les marges du système libéral conservateur. Donc jongler entre les deux aspects, les gouvernements d'une part, les mouvements de l'autre, lui réussit, mais il choisit toujours les gouvernements sur les mouvements. Un exemple entre mille, quand Oswald Mosley, le chef des Black Shirt fascistes, arrive à Rome à la fin de 31, et j'ai publié le journal qu'a tenu Harold Nicholson, qui l'accompagnait à ce moment-là de leur séjour à Rome, Mosley, dans l'enthousiasme, je pense que en fait, il savait très bien, il était plus réaliste que cela. Enfin, dans l'enthousiasme, dit à Mussolini, « Ah, j'aimerais bien faire une marche sur Londres à votre image. » Et Mussolini lui tourne carrément le dos en disant « Ce personnage m'empoisonne, il va me mettre dans des situations absolument impossibles. » Donc, c'est, pour simplifier, l'apparition du modèle hitlérien qui lui pose le grand problème de l'identité idéologique. Une crise très humaine de jalousie, mais une crise de jalousie d'aînesse en sort, et à partir de ce moment-là, c'est peut-être le sujet d'une autre question, mais à partir de ce moment-là, son problème, c'est d'abord d'essayer d'endiguer Hitler, aussi bien politiquement qu'idéologiquement, de lui couper vraiment l'herbe sous les pieds, et ça ne marche pas, nous aurons la faillite du front de Stresa, et puis de se lancer dans des aventures absurdes du point de vue fasciste, comme l'aventure espagnole, où Franco, qui n'est pas du tout fasciste au sens mussolinien, prend son aide et son assistance et ne lui donne absolument rien en échange. Et de là vient la suite.
Oui, alors c'est une très grande question. J'avoue que moi-même je balance parce que parfois je suis la chronologie que Mauricio Serra vient nous rappeler, qui conduit à l'idée que peut-être si les Français et les Anglais en 1934, 35, 36 avaient été plus habiles, plus attentifs aux problèmes que rencontrait l'Italie, on aurait pu éviter le basculement de l'Italie vers l'Allemagne hitlérienne. À côté de ça, il y a d'autres éléments. Vous avez toute une littérature fasciste italienne, dès la fin des années 20, début des années 30, donc avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Des auteurs fascistes, pas de Mussolini lui-même, même si parfois il donne une préface, qui abordent des thèmes sont lesquels, devant les puissances plutocratiques françaises et anglaises qui ne comprennent rien, la jeune Europe, l'Europe nouvelle, devra reposer sur une entente italo-allemande. Ce n'est pas encore l'Allemagne nationale-socialiste, mais bon. Ce sont les pays qui ne sont pas satisfaits de la situation européenne depuis 1919, pour dire les choses brutalement. Vous avez d'autre part un élément très intéressant qui est venu au jour récemment. On a soumis à Mussolini en 1934 la traduction italienne de Mein Kampf. Ça, c'est une question essentielle dans le sens qu'a dit Mauricio Serra, publié ou pas en italien Mein Kampf, c'était une question qui allait au doute, je dis directement. Et on a les notes marginales qu'il a écrites en marge. Et sur certains points, y compris d'ailleurs l'antisémitisme hitlérien, il n'est pas en désaccord. C'est tout à fait intéressant. Et ça, très tôt. Je prendrai encore un autre exemple.
Ça, c'est nouveau.
Il a dû paraître en 2006 ou 2007. C'est un livre récent, je le cite dans cet ouvrage L'Europe depuis 1815 qui est sorti en 2007. Alors, un autre élément que j'apporte. En France, en particulier dans les milieux de gauche non communiste, non marxiste, qui n'était pas donc pollué par la définition idéologique du fascisme en tant que tel, ça a été à l'époque une très importante discussion, à l'époque, nous sommes en 35, de savoir si l'Italie fasciste pouvait être un appui face à l'Allemagne nationale-socialiste, donc quelque chose de différent, ou si, au fond, elle risquait de rejoindre assez vite Hitler. Alors, ça a été un débat extrêmement important, il se trouve que mon parrain, l'historien Henri Maroux, et qui avait été à l'école de Rome, se retrouve en 1935 à l'Institut français de Naples. Et il observe sur place la réalité italienne depuis plusieurs années. Il écrit dans Esprit, puisqu'il faisait partie du groupe L'Esprit, qui était la revue, disons, chrétienne, démocrate, de gauche, peut-on dire, à l'époque. Il écrit sous son pseudonyme Henri d'Avançon, toute une série d'articles qui sont restés fameux, qui sont parus en 35, si je me souviens bien, expliquant ce qui était nouveau, ce qui était encore en débat. Ne vous y trompez pas, l'Italie fasciste n'est pas différente fondamentalement de l'Allemagne nationale-socialiste, en tout cas pas assez différente pour ne pas la rejoindre tôt ou tard. Donc nous ne pouvons pas faire fond sur elle pour nous opposer à l'Allemagne nationale-socialiste. Ce sont un peu les termes du débat que nous avons encore aujourd'hui.
On s'intéresse dans les courants historiographiques récents beaucoup au prestige qu'a eu le fascisme dans de nombreux milieux européens. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, en 2011, de la réception du fascisme en Europe au sein des élites? Disons que les élites, c'est un critère pour vous de définition entre, justement, nazisme,
oui,
communisme, oui, fascisme, etc. C'est un critère très important dans l'historiographie récente, en particulier la place qu'elles occupent ou qu'elles ont pu conserver au sein de ces régimes fascistes.
C'est une question fondamentale qui est un véritable discriminant pratique, pragmatique, et pas théorique. Je ne suis pas un théoricien, je suis un historien pragmatique. Les soviétiques, dans la bêtise totale de leur régime, ont liquidé les élites. Staline l'a regretté, d'ailleurs. Il a essayé, mais c'était trop tard. Il était ou parti ou tué. Bon. Les Allemands, Hitler s'est bien gardé de les tuer. Il a totalement phagocyté, domestiqué. Des militaires, des industriels, en passant par les hauts fonctionnaires. Il les a corrompus, mais il les a utilisés à fond, parce qu'elles étaient compétentes. Il les a aidés en écartant tous les freins à l'efficacité des hauts fonctionnaires, des militaires, des grands industriels. Ils ont eu tous les moyens, y compris financiers, qu'ils voulaient. Les syndicats ont été supprimés, c'était le rêve. Dans le cas italien, on a encore une troisième catégorie, parce que, bien entendu, les élites sociales, pas intellectuelles, ont été, bien entendu, en quelque sorte cooptées. Le régime, d'ailleurs, n'avait pas les moyens de les écarter avec l'appui dont elles jouissaient, du côté de la monarchie, de l'Église, etc. Elles ont été certainement cooptées, mais elles sont restées en même temps beaucoup plus libres vis-à-vis du régime qui les a incontestablement moins contrôlés, entre guillemets, que le régime national-socialiste le contrôlait les siens. Si vous prenez les militaires, bon, il y avait en Allemagne des Badoglio, il y avait des militaires de haut rang, ils ont été éliminés au plus tard en 1938. Badoglio, il est tellement resté qu'il a survécu politiquement Mussolini, n'est-ce pas ? Il n'était pas le seul. Les marins n'ont pas été guère touchés par le régime. Les hauts fonctionnaires, les diplomates, il n'y a pas eu de bouleversement du corps diplomatique italien. Les diplomates italiens conservent leur liberté, je dirais, de réflexion. D'expression, non, mais enfin, le pays est en guerre, et puis c'est quand même un régime où l'opinion est contrôlée, bien entendu, mais le fonctionnement interne de la diplomatie italienne n'est pas corrompu, comme l'a été celui de la diplomatie allemande par le régime. Si Mussolini avait bien voulu écouter ce que disaient ses diplomates, si Ciano, son gendre, ministre des Affaires étrangères, avait eu le courage, c'était pas bête, Ciano, avait eu le courage d'affirmer davantage les convictions pas bêtes que lui soufflaient ses diplomates, avant tout que l'Italie ne veut pas entrer en guerre, hein, bon, et faire comme Franco en Espagne, là, les choses auraient été différentes. Mais donc, c'est ce qui a permis une reconstitution, une reconstruction très rapide à partir de la fin de la guerre, de la chute du régime, la fin de la guerre civile, parce que tout était en place pour repartir très vite. Bon, voilà ce que je dirais. Alors, il y a un autre point, si vous me permettez, les élites européennes et d'autres pays. C'est quand même très frappant de voir que les conservateurs britanniques et beaucoup de conservateurs français, pas tous, ils ont été plus méfiants que les Britanniques, mais ont pendant longtemps, et les Britanniques jusqu'en 1938, malgré la guerre d'Éthiopie, considéraient qu'il y avait des éléments positifs dans le fascisme italien et que l'on pouvait éventuellement utiliser l'Italie contre Hitler. Mais au-delà de ce pur pragmatisme, il y avait l'idée que le fascisme apportait certains éléments positifs dans la lutte contre le marxisme, dans des tentatives de relance de l'économie. Nous sommes en pleine crise mondiale à partir des années 30, il faut le rappeler.
Une triple crise.
Bon, certaines formules italiennes sont totalement en dehors des schémas anglo-saxons. D'autres, elles sont étudiées, sont prises au sérieux. Si vous prenez les programmes, par exemple, de Roosevelt aux États-Unis, tient compte aussi de ce qui se fait en Europe. Certaines expériences, y compris en Italie, les choses sont plus complexes qu'on a tendance à les voir aujourd'hui.
J'aimerais me situer sur une contradiction encore plus forte dans cette idée du fascisme autoritaire ou totalitaire à laquelle je n'ai pas de réponse, parce que je trouve qu'il y a les deux éléments confondus mais jamais harmonisés. Bon. Et c'est quand même l'idée que l'Éthiopie est à la fois une, on a eu raison de le dire historiquement, la dernière, la plus périmée des expéditions coloniales, mais est en même temps l'idée qu'on peut mettre ensemble les deux rives de la Méditerranée dans un projet fasciste. Or, quel est en même temps ce qui ne marche pas dans ce projet? C'est que les rythmes de la fraternisation italo-éthiopienne inquiètent Mussolini. Les lois raciales de 1938 naissent beaucoup plus, me semble-t-il, de l'expédition de l'Éthiopie et tout ce qu'on dit à Mussolini sur la fraternisation à ce moment-là, que de l'idée, disons, du racisme biologique allemand. À ce moment-là, il commence, et on le voit dans ses lectures, et on le voit dans les rapports, à s'interroger sur la décadence. Alors, la décadence est l'horreur de Mussolini. Et son côté, si l'on veut, racial, biologique, lui qui était plutôt pragmatique de ce point de vue-là. Il a voulu que l'homme latin, et puis n'oublions pas Rome, l'évocation, la mythologie et tout cela, soit l'image de ce que disait tout au début Jean-Jean Issoutou, c'est-à-dire ce guerrier, ou en tout cas cet homme nouveau qui n'a pas les vices et les défauts de l'homme décadent du libéralisme européen. Mais à côté de cela, quand il voit que ce jeune soldat, ce jeune pâtre, ce jeune ouvrier italien fraternise un peu trop, elle se dit « hop, on va avoir la décadence de l'autre côté qui ressort ». Et alors, il entre dans une concoction d'idées totalitaires, raciales, qui, me semble-t-il, correspond parfaitement à la vraie décadence qui est celle de l'homme et de sa pensée à partir de ce moment-là.
et qu'on peut suivre également très exactement à travers ses maîtresses. Si vous me pardonnez ce raccourci audacieux, sa première maîtresse connue, Margarita Sarfatti, était dans les années 20 une personne extrêmement intéressante qui a beaucoup fait pour le développement intellectuel en Italie et qui n'était pas raciste pour bien des raisons, et d'abord parce qu'elle était juive d'origine, si je ne me trompe pas. Et puis la maîtresse suivante, en tout cas la deuxième qu'on a retenue, Clara Petacci, avec laquelle il est tué en 1945, on a publié récemment le journal que tenait cette Pécor, avec des déclarations de Mussolini qui sont, voilà, tout à fait dans la deuxième phase que vient d'évoquer Maurizio Serra.
Encore que, permettez-moi d'ajouter, ce n'est pas moi de défendre rien de ça, mais il faut faire très attention, et nul ne sait mieux que Georges-Henri Soutou, à l'utilisation même des témoignages, des journaux, des lettres ou autres. Je vous donne un exemple, et je n'innocente pas Mussolini, ses responsabilités historiques énormes, là n'est pas la question de notre débat. Mais allez prendre le journal de Ciano, qui lui est un véritable diariste et c'est un document fondamental pour la politique étrangère européenne et pour connaître l'Europe qui va vers la Deuxième Guerre mondiale. Bon, à certains moments, guerre civile d'Espagne, on raconte des prisonniers qui ont été faits italiens, par les Italiens, des prisonniers italiens des brigades internationales, et Ciano lui dit on a capturé un certain nombre d'Italiens communistes, anarchistes ou autres qui combattent dans les brigades internationales. Qu'on les fusille tous. Bon, ça, si on lit le journal, c'est ça. Dans la réalité, on n'en a fusillé aucun. Donc, il faut toujours savoir un peu distinguer, surtout dans un régime comme le régime fasciste où la rhétorique a tellement primé sur la réalité. Je répète, je n'innocente pas le régime. Au contraire, ma ligne d'interprétation a toujours été de dire que le régime était beaucoup plus sérieux et plus dur qu'on ne l'a cru, et que, par exemple, la guerre civile italienne n'a rien dans l'effroyable, sinon dans les pertes, mais enfin encore, d'inférieur à la guerre civile espagnole ou à la guerre civile grecque. Ça a été 18 mois absolument effroyable. Donc, l'image d'opérette ou commedia dell'arte du fascisme italien me révulse totalement. Néanmoins, l'aspect rhétorique naît avec le régime et meurt avec lui.
Avec le caractère que Maurizio Serra rappelait très justement, Mussolini est un journaliste. Je ne voyais pas là-dedans une condamnation fondamentale, mais il recherche la formule. Il ne résiste pas. Il ne résiste pas à une formule, n'est-ce pas ? Et dont il fera un titre, soit dans un discours, soit dans un des articles qu'il rédigeait, même s'il ne les signait pas, mais on sait très bien, on connaissait son style. Il ne résiste pas à la formule qui peut totalement déconnecter de la réalité, mais peut-être pas quand même de ce qu'on appellerait en anglais « frame of mind ». Parce que ça, malgré tout, je suis un peu plus pessimiste que vous à ce sujet.
Non, mais pessimiste en quel sens ?
Je pense... plus critique.
Je suis critique envers qui ?
Envers Mussolini.
Ah, mais je suis très critique. Je viens de dire qu'il a des responsabilités devant l'histoire qui sont énormes. Je viens également de dire qu'il a probablement précipité dans la guerre un régime qu'il voulait faire passer par la guerre.
Alors abordons le thème du fascisme et de la guerre.
Eh bien, la guerre que rien n'obligeait l'Italie à affronter en ce moment-là, elle aurait eu tout à profiter d'une neutralité, probablement elle aurait eu tout à profiter d'une neutralité même en 1914. Mais enfin, ça c'est un autre contexte qui n'a rien à voir avec le fascisme. En tout cas, nous n'aurions peut-être pas eu le fascisme sans la guerre de 14, même si elle a été victorieuse. Eh bien, la guerre de 39-40, la guerre mondiale, n'a rien d'obligé pour l'Italie, pour les enjeux qui en font partie. Nous n'avons absolument aucun problème véritable avec la France ou l'Angleterre qu'on aurait pu résoudre du point de vue diplomatique. Même un accord bâclé comme le pacte d'acier et l'alliance avec l'Allemagne, pour bâclé qu'il fût, avait quand même des échappatoires et on sait qu'il n'y a pas eu de pression allemande très forte sur l'Italie en 39-40 pour qu'elle entre en guerre. Même des généraux allemands étaient préoccupés au point de se dire « c'est peut-être mieux que les Italiens n'entrent pas en guerre parce que ce sera un poids en plus pour nous ». Donc non, il y a deux aspects, me semble-t-il, qui sont très fortement idéologiques. Un aspect, c'est que la neutralité, dit Mussolini, ne fait pas partie de mon vocabulaire. C'est un homme de la guerre. Déjà son nom, il s'appelle Benito à cause de Benito Juárez, c'est de l'admiration que son père a pour la révolution mexicaine, est contre la neutralité. Pour lui, nous avons parlé de maîtresse, ça c'est un domaine où je ne vais pas m'aventurer, mais là certainement la notion de neutralité n'est pas une notion virile.
et certainement n'est pas une notion fasciste. Donc la guerre, tôt ou tard, est dans son ordre. Au fond, tout son débat, c'est s'il peut attendre 42, l'exposition de Léour à Rome, et après voir un peu comment se positionner. L'autre raison principale, c'est qu'il sent qu'il est vieilli, même physiquement, il sent que son heure est en train de passer et qu'il doit attraper la chance de l'histoire pour faire une guerre aussi brève, parce qu'il veut la guerre, mais ne veut pas une longue guerre. Il veut une guerre brève et opportuniste. Et c'est la raison pour laquelle c'est la chute de la France qui le décide à la guerre. C'est du cynisme total. Guerre brève et opportuniste, en sortir, prendre sa part de butin et asseoir définitivement ce régime totalitaire que l'Église, l'armée, les relations internationales, ces mous de diplomates et la monarchie naturellement ne lui ont pas permis de faire. Voilà en gros.
Donc la guerre pour ultime conquête définitive du pouvoir pour instaurer un régime, j'allais dire totalement fasciste, oui, comme peut-être, solution.
Puis peut-être, si je peux Jean-Jean me permettre, toute une dimension dont il faut prendre la mesure. On est dans une Europe qui a encore, d'une certaine façon, la culture de la guerre. Même, comment dirais-je, pour les démocraties pacifiques, c'est un devoir militaire. Il faut être à la hauteur, il faut faire son devoir en temps de guerre, etc. J'ai encore connu ça en France dans les années 60, ça n'a changé qu'après 68. Donc dans ce contexte, c'est moins, disons, choquant pour les contemporains que ça ne l'est aujourd'hui. Mais il est évident que derrière son projet d'homme italien nouveau, il y a beaucoup de, à mon avis, je ne sais pas ce que Maurice Serra en pense, mais il y a beaucoup de complexes à cause des stéréotypes multipliés depuis 18e, 19e siècle, 18e siècle peut-être déjà, au sujet de l'Italie, de sa culture, n'est-ce pas ? Il y a une volonté d'affirmer, de dire nous sommes vraiment pas seulement une grande puissance de courtoisie, comme on le disait méchamment, de l'Italie avant la Première Guerre mondiale, nous sommes vraiment les héritiers de Rome. Et il y a une dimension psychologique qui est importante, parce qu'elle n'est pas seulement chez Mussolini, à mon avis, elle est chez beaucoup des gens qui, même sans être fascistes au sens strict, soutiennent malgré tout jusqu'à une date qui est le 10 juin 40. Parce que là, je crois que vraiment, il y a eu à ce moment-là, le 10 juin 40, quand Mussolini décide d'attaquer la France, sans aucune raison et sans avoir même préparé l'opinion italienne finalement à ça, il y a, à mon avis, je pense que vous en pensez, mais la première grande rupture, la deuxième sera 43, mais la première grande rupture entre le Duce et un peuple qui, au fond, jusque-là, n'avait pas été opposé, enfin bon.
Est-ce qu'on peut considérer Maurizio Serra, donc le fascisme, comme une guerre civile ? Est-ce que pourrait rentrer dans cette typologie, d'après vos travaux ?
Le fascisme italien n'a pas peur de la guerre civile, est né dans un climat de guerre civile larvée. Des deux côtés, hein, parce que quand même 1920, on ne peut pas se baser sûrement sur l'image de quelques films qui ont été connus dans l'après-guerre, où on voit des squadristes qui arrivent matraquer des gens ou brûler les campagnes, et des gens apeurés, des femmes et des enfants. Il y a de l'autre côté une composante très forte, social-communiste et notamment communiste. Après tout, les premiers deux ans de l'après-guerre, de 1920, sont appelés le Biennio Rosso, parce que c'est surtout à ce moment-là que se dessine un risque de révolution bolchevique. Il y a l'occupation des usines dans le Nord, par exemple, qui est une forme de grève, mais de grève qui peut préluder à quelque chose de plus. C'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle le fascisme, qui naît à gauche, enfin à gauche de la droite, avec le manifeste du Saint-Sépulcre dont on parlait, reçoit de plus en plus l'appui des grands agraires, du capital, parce que quand même, il faut se protéger d'une possibilité pressentie réelle, on peut en discuter, de révolution léniniste en Italie. Donc, il y a une guerre civile larvée à ce moment-là.
Qui n'est pas non plus d'un degré zéro, parce que en disant non, qu'elle est larvée, elle peut mener des actions violentes, y compris en dehors du territoire italien, pour éliminer des opposants.
Oui, bien sûr. Il faut dire quand même que c'est un peu comme la guerre civile espagnole, qui finalement a été fortement localisée dans certaines parties du territoire, et nous avons eu la même chose. Il y a du squadrisme plus dans le nord que dans le sud, pratiquement il n'y en a pas dans le sud sauf les Pouilles, et dans le nord il y en a très peu en Piémont monarchiste, très peu en Ligurie, pratiquement inexistant, et il y en a beaucoup dans la plaine du Pô, et qui deviendra, 20 ans plus tard, le triangle de la guerre civile, la non larvée de 43-45.
Donc ça, c'est une phase...
Donc c'est Lombardie, Émilie, Toscane. Ça, c'est...
Est-ce que je peux rappeler pour nos auditeurs que l'année 1919 voit quand même 3 mois d'une dictature communiste très dure en Hongrie.
Ah ben oui, bien sûr, Béla Kun, ça joue également.
Alors, c'est quand même pas la Russie, c'est plus proche que l'Allemagne en 1919, à différentes reprises. On peut se demander ce qu'elle va devenir à la suite de tentatives des spartakistes, puis du nouveau parti communiste allemand. Donc l'Italie et sa quasi-insurrection communiste dans certaines régions à ce moment-là entre dans ce contexte 1919-1920. C'est pas aussi exotique qu'on pourrait le penser aujourd'hui.
Non, bien sûr, c'est un contexte tout à fait européen.
Oui, vous avez tout à fait bien fait de le rappeler. Et les réactions, vous retrouveriez les mêmes mutatis mutandis en Hongrie, en Roumanie. Les croix de fer roumains ont une généalogie qui n'est pas tellement différente de celle du fascisme italien.
Oui, il y a quand même chez les croix de fer, Codreanu et tout ça, que Mussolini a un peu méprisé tout en donnant un peu d'argent aux croix de fer. Il y a un côté quand même mystique, l'archange Michel, tout ça, l'idée, cette idée de métaphysique qui n'est pas de Mussolini. Là, on entre dans les nuances qui peuvent intéresser un autre débat peut-être. Mais enfin, j'aimerais simplement dire un mot sur cette notion de guerre civile qui est très intéressante, parce que c'est une évolution quand même du climat historiographique, je dirais même du climat politique. Il a été anathème de parler d'une guerre civile dans l'Italie du centre-nord. Pendant de très longues années, on a préféré l'expression, qui est tout à fait juste, de guerre de libération, parce que ça a été une guerre de libération contre le dernier rempart du nazifascisme en Italie, et je dis bien du nazifascisme, parce qu'il n'y aurait pas eu de République sociale italienne sans l'appui militaire et autres, et policiers et répressifs des Allemands. Donc ça, c'est un tout. Pourtant, la notion de guerre civile n'est pas incompatible avec celle de guerre de libération, d'une part parce qu'elle a engagé des effectifs qui sont importants des deux côtés, et on ne peut pas le nier. Bien entendu, on peut considérer que chez les fascistes, un certain nombre d'adhérents militaires étaient la conscription obligatoire et qu'on n'avait pas le choix. Si on avait 18 ans, c'était ça ou être déporté. Donc on peut trouver beaucoup d'atténuantes qui rendent cette notion plus modeste. Mais c'est dans le bien et surtout dans le mal, dans les massacres, une guerre entre Italiens. Donc, même l'idée que le régime de Salò soit un régime de l'Italie fasciste à l'heure allemande, c'est assez discutable, du point de vue des racines. On revient vraiment à l'idée de guerre civile qui était à l'origine du fascisme, dont vous voyez, je n'innocente pas ni le fascisme, ni Mussolini, de rien du tout, bien que lui, personnellement, ait essayé plusieurs fois d'endiguer les pires excès, mais n'était plus en condition de le faire. Il devait être le premier, même ce qu'on lui a longtemps reproché, c'est-à-dire le procès de Vérone et la mise à mort, notamment de son genre Chan, non, ce règlement de compte qui fait presque penser à un opéra vériste. Eh bien, il semblerait qu'il ait essayé d'empêcher quelque chose un peu mollement, mais il ne pouvait pas le faire. Les durs et purs du régime, qui étaient à la fois des vieux et des jeunes de 20 ans, donc des vieux de la première heure et des jeunes de 20 ans, parfois les pères et les fils, n'auraient pas accepté cela. Il aurait payé de sa vie, probablement.
Je suis entièrement d'accord avec cette analyse de la République de Salò, dont l'histoire un peu synthétique est destinée à un public européen et pas seulement un public de spécialistes reste à faire, à mon avis.
Mauricio Serra, juste pour terminer, comment est-ce qu'on peut expliquer ce parcours complètement atypique de Malaparte, justement sur cette période de 43-44?
Mais vous savez, dans l'ensemble, moi j'ai été un peu surpris. Nous avons très peu de temps, mais j'ai été à la fois extrêmement flatté des réactions si généreuses, si flatteuses pour moi que ce livre a eu, mais à la fois un peu surpris qu'on ait vu dans ce parcours, qui est certainement un parcours en dents de scie, qui est certainement un parcours sulfureux, une composante aussi en dehors de la réalité. Malaparte a fait à son échelle, qui était l'échelle d'une certaine démesure, d'un certain exhibitionnisme, certainement d'un grand narcissisme, au fond un peu le parcours d'une génération. C'est une génération qui naît dans les tranchées, qui passe par les tranchées et fait une très belle guerre du début à la fin, qui hésite au moment de la paix entre les socialistes et les fascistes, qui jouent probablement la carte fasciste parce que est celle où ils voient que le pouvoir peut arriver, mais tout en jouant la carte fasciste, ils conservent des amitiés du côté républicain et socialiste qui pourront servir un jour. Il n'y a pas de fanatisme idéologique chez lui, jamais. Il y a peut-être à la rigueur du calcul, parfois du mauvais calcul, mais il n'y a pas de nécessité de rompre totalement avec une cause pour en épouser totalement une autre.
Est-ce que c'est une attitude que on pourrait dire
Je vous
commune
vois venir.
À beaucoup d'Italiens.
Je vous vois venir, je vous vois venir.
Ou est-ce que c'est un préjugé, justement ?
Non, je pense. Écoutez, il y a les deux aspects, parce que peut-être une histoire nationale récente et une longue histoire communale a fait en sorte que les Italiens soient plus portés à un terme qui n'existe pas en italien, mais qui est très populaire. Enfin, il existe en italien, mais pas dans ce sens. Mais qui est très populaire en France pour désigner cela, on appelle la combinazione. Ça ne veut rien dire en italien, mais c'est très bien. En français, ça marche très bien. Alors, la combinaison, bon, très bien. Il se peut, remarquez, je n'y vois rien de terrible quand vous voyez que dans les pires cas de la guerre civile, justement, nous parlions tout à l'heure de 43-44, s'il n'y avait pas eu un peu de combinaison, il n'y aurait pas eu la possibilité d'éviter des pires excès, des exactions et autre chose. Et même, par exemple, en ce qui concerne la persécution raciale, la combinaison a beaucoup aidé parce que pour un pays où l'Église était importante de fabriquer de faux certificat de baptême à des Israélites, ça tient également un peu de la combinaison, non ? Mais quand même, ça aide des malheureux qui sont dans des conditions épouvantables. Donc, là, nous entrons dans un très vaste débat. Mais dans le cas de Malaparte, je trouve que son parcours a été celui de suivre dans le bien et dans le mal le fascisme historique, c'est-à-dire le Ventennio jusqu'à 40. Il ne s'est pas du tout opposé à la guerre de 40, comme il l'a écrit après. D'ailleurs, son opposition n'aurait vraiment fait aucune différence. Pas le poids de s'opposer, il aurait pu faire pour sauver sa conscience, mais ça, nous entrons dans un autre domaine. Mais évidemment, à partir de 43, il a compris, d'abord il était au sud, il a compris que dans le nord, ce qui se passait était au fond non seulement un retour à la guerre civile, mais j'aimerais dire quand même un retour à cette petite composante qui était dans le fascisme, qui après tout est foncièrement antilibérale et antidémocratique, d'aller s'il le faut, plutôt vers la mort que plutôt que vers la vie. La vie, c'est la mutation, l'adaptation. La mort, c'est être figé, être rigide. Beaucoup de fascistes vont à Salò pour chercher la bella morte, la belle mort. Lui, ça n'intéresse pas du tout.
Sur Jean Rissouteau ?
Je dirais que dans le livre Maurizio Serra sur Malaparte, qui est une somme, parce que c'est toute l'Italie, ou en tout cas toute une certaine Italie, pas seulement Malaparte que l'on décrit, j'ai trouvé toute une série de personnages. Mon père ayant été consul de France à Milan en 58 et 61, certains d'entre eux, je les ai vus. Des éditeurs, des auteurs, des écrivains, des intellectuels, tous à gauche, parfois très à gauche, et qui en fait avaient été tout autant fascistes, voire plus que Malaparte pendant les années d'avant-guerre. Mais simplement, ils avaient mieux su le faire oublier que lui, peut-être. Je ne donnerai aucun nom. Alors, pour reprendre la question, il y a la guerre civile italienne qui a existé et la guerre civile espagnole, il y a une différence. Bon, les circonstances sont tout à fait différentes, il y a beaucoup de différences, mais il y a une différence de qualité, me semble-t-il. La guerre civile espagnole a, je pense, atteint des niveaux d'atrocité. Quand on pense que l'évêque d'Urgel a été tué en habit épiscopaux dans son église au moment de la messe et émasculé, je ne sais pas trop dans quel sens ça s'est passé d'ailleurs, hein. Bon, ça a été absolument épouvantable. Il y a eu quand même un nombre de morts pendant la guerre qui est autour de 150 000 au moins. Puis ensuite, la répression franquiste après la guerre, 150 000 supplémentaires, et là, sans même l'excuse d'une guerre civile. Donc, un acharnement absolument extraordinaire. Je ne crois pas qu'on ait atteint ça en Italie.
C'est quoi l'ordre de grandeur pour...
Là, il faut demander à Maurizio Serra. Là, je n'ai pas l'ordre de grandeur.
Les chiffres sont autour, ça me paraît un peu excessif, mais autour de 80-100 000 pendant cette période, et autour de 30 à 40 000 pour ceux qu'on appelle les suites, c'est-à-dire jusqu'en 47-48, les éliminations. Oh non, pas l'épuration légale, vraiment des règlements de compte. Mais vous savez, il est absolument impossible dans une guerre civile de donner des chiffres qui soient fiables, parce que vous avez toutes sortes de choses qui peuvent intervenir. N'est-ce pas ? Est-ce crapuleux ? Est-ce de nature politique ? Est-ce de nature privée, sentimentale ? Il y a un très beau livre, l'un des premiers livres sur la guerre civile, d'un partisan d'ailleurs, un grand écrivain partisan, Beppe Fenoglio, qui s'appelle vraiment « Una questione private », il est traduit en français. C'est une question privée, c'est-à-dire que dans cette histoire se mêle une affaire de sentiment, d'amour, de jalousie, et en même temps sous l'ombre de la guerre civile. Alors, à l'étrier, on l'a parfois fait dans des procès même retentissants. même retentissant. Mais
avec en plus la présence des troupes allemandes en Italie du Nord, pendant la République de Salo, oui. qui interviennent elles aussi, ce qui fait que là, c'est particulièrement difficile à décrypter. D'autre part, les débats idéologiques en Italie sont extrêmement profonds depuis le 19e siècle. On a là toute une littérature, il suffit d'ouvrir les mémoires, les livres, etc. Mais leurs répercussions, disons, dans la vie sociale, y compris à l'intérieur des familles, dans les rapports de l'humain, etc., n'atteignent pas toujours. Parfois, si, les années 70 en Italie ont été épouvantables, de ce point de vue-là, épouvantables. Hein. 70,
tout à fait. Les années
siècle,
dites de plomb.
De plomb, voilà. Mais malgré tout, il y a des périodes où ce n'est pas comme ça. Et la comparaison que je peux faire, pour des raisons personnelles, entre l'Espagne, la France et l'Italie, m'amènerait à penser que les idéologies qui sont la plaie de l'Europe depuis la fin du XVIIIe siècle ont quand même été en Italie tout aussi puissantes et dures qu'ailleurs. Ça, c'est absolument évident. On a les deux sens, d'ailleurs, dans toutes les idéologies. Mais avec des composantes ou des répercussions familiales ou humaines ou sociales, malgré tout, un peu moins, comment dirais-je, durable ou grave.
Jean-Henri Soutou, vous parlez de votre famille, là. Quel lien avez-vous avec l'Espagne ?
Eh bien, ma mère est espagnole. Bon, alors, la famille de ma mère était républicaine. Et ensuite, à partir de 1939, évidemment, en exil. Et certains de mes oncles ont été ensuite dans la résistance et puis dans le Parti communiste espagnol. L'un d'entre eux vient, hélas, de nous quitter. C'était Jorge Semprún, n'est-ce pas ? Qui avait été quand même, à un moment donné, numéro 2 du Parti communiste espagnol, avant d'en être expulsé, d'ailleurs. Ce qui fait que les discussions idéologiques au sein de la famille, c'est quelque chose que je connais très bien. Quand, d'autre part, j'ai vécu également en Italie, je suis constamment revenu depuis, et que j'ai fait mes études quand même, j'ai vécu en France aussi, je pense pouvoir établir une typologie des idéologies dans les pays que je qualifierais de latins, de tradition catholique, pour faire extrêmement brutal et ramasser, parce qu'il y a une composante essentielle, quand même, qui présente un certain intérêt. J'ai toujours lu avec beaucoup d'intérêt les ouvrages de mes collègues italiens historiens de gauche, voire même extrêmement à gauche. Je n'ai rarement éprouvé le même intérêt pour des ouvrages de leurs équivalents collègues français. Voilà.
Merci Georges-Henri Soutou et Maurizio Serra pour vos analyses d'historien sur une des idéologies du XXe siècle, le fascisme italien, le sujet qui vous a réunis aujourd'hui. Merci de vos éclairages sur le rôle et la personnalité de Mussolini et puis de vos éclairages sur la fin du régime et la guerre civile. Rappelons quelques-uns de vos livres. Pour Georges-Henri Soutou, L'Europe de 1815 à nos jours au PUF et Malaparte, vies et légendes chez Grasset de Maurizio Serra. Merci messieurs.